Voltaire, Dictionnaire philosophique, Enfer, Inferum souterrain. Les peuples qui enterraient les morts les mirent dans le souterrain. Leur âme y était donc avec eux. Telle est la première physique et la première métaphysique des Égyptiens et des Grecs. Les Indiens, beaucoup plus anciens, qui avaient inventé le dogme ingénieux de la métempsycose, ne crurent jamais que les âmes fussent dans le souterrain. Les Japonais, les Coréens, les Chinois, les peuples de la vaste Tartarie orientale et occidentale, ne surent pas un mot de la philosophie du souterrain. Les Grecs, avec le temps, firent du souterrain un vaste royaume qu'ils donnèrent libéralement à Pluton et à Proserpine, sa femme. Ils leur assignèrent 3 conseillers d'État, 3 femmes de charge, nommées les Furies, 3 parcs pour filer, dévider et couper le fil de la vie des hommes, et comme dans l'Antiquité, chaque héros avait son chien pour garder sa porte, on donna à Pluton un gros chien qui avait 3 têtes, car tout allait par 3. Des 3 conseillers d'État, Minos et Acaradamante, l'un jugeait la Grèce, l'autre l'Asie mineure, car les Grecs ne connaissaient pas encore la Grande Asie, et le troisième était pour l'Europe. Les poètes, ayant inventé ces enfers, s'en moquèrent les premiers. Tantôt Virgile parle sérieusement des enfers dans l'Énéide, parce qu'alors le sérieux convient à son sujet, mais tantôt il en parle avec mépris dans les Géorgiques, livre 3, 5. Heureux qui peut sonder les lois de la nature, qui des vains préjugés foule aux pieds l'imposture, qui regarde en pitié le Styx et l'Achéron, et le triple Cerbère et la barque à Caron. On déclamait sur le théâtre de Rome ces vers de la Troade, auxquels 40 000 mains applaudissaient. Le palais de Pluton, son portier à 3 têtes, les couleuvres d'enfer à mordre toujours prêtes, le Styx, le phlégéton, sont des contes d'enfants, des songes importuns, des mots vides de sens. Lucrèce, Horace, s'expriment avec la même force. Cicéron, Sénèque, en parlant d'eux-mêmes, en 20 endroits. Le grand empereur Marc Aurèle raisonne encore plus philosophiquement que tous. Celui qui craint la mort, craint tout d'être privé de tout sens ou d'éprouver d'autres sensations. Mais si tu n'as plus les sens, tu ne seras plus sujet à une peine, à aucune misère. Et si tu as des sens d'une autre espèce, tu seras une autre créature. Il n'y avait pas un mot à répondre à ce raisonnement dans la philosophie profane. Cependant, par la contradiction attachée à l'espèce humaine, et qui semble faire la base de notre nature, dans le temps même que Cicéron disait publiquement « Il n'y a point de vieille femme qui croit ses inepties », Lucrèce avouait que ses idées faisaient une grande impression sur les esprits. « Il vient, dit-il, pour les détruire. Si l'on voyait du moins un terme à son malheur, on soutiendrait sa peine, on combattrait l'erreur. » On pourrait supporter le fardeau de la vie, mais d'un plus grand supplice, elle est, dit-on, suivie. Après de tristes pleurs, jour, on craint l'éternité. Il était donc vrai que, parmi les derniers du peuple, les uns riaient de l'enfer et les autres en tremblaient. Les uns regardaient Cerbère, les Furies et Pluton comme des fables ridicules, et les autres ne cessaient de porter des offrandes aux dieux infernaux. C'était tout comme chez nous. Ils conjurent ces dieux, conforgent nos caprices, ils fatiguent Pluton de leurs vains sacrifices, le sang d'un bélier noir coule sous leurs couteaux, plus ils sont malheureux et plus ils sont dévots. Plusieurs philosophes qui ne croyaient pas aux fables des erreurs en enfer voulait que la populace fût contenue par cette croyance. tel fut Timée de Locre, tel fut le politique historien Polybe. L'enfer, dit-il, est inutile aux sages, mais nécessaire à la populace insensée. Il est assez connu que la loi du Pentateuque annonce jamais un enfer. Tous les hommes étaient plongés dans ce chaos de contradictions et d'incertitudes quand Jésus-Christ vint au monde. Il confirma la doctrine ancienne de l'enfer, non pas la doctrine des poètes païens, non pas celle des prêtres égyptiens, mais celle qu'adopta le christianisme, à laquelle il faut que tout cède. Il annonça un royaume qui allait venir et un enfer qui n'avait point de fin. Il dit expressément à Capharnaüm en Galilée, « Quiconque appellera son frère Raca sera condamné par les Sanhédrin, mais celui qui l'appellera fou sera condamné au Géhel Aïnon, Géhel le feu. » Cela prouve deux choses. Premièrement, que Jésus-Christ ne voulait pas qu'on dit des injures, car il n'appartenait qu'à lui, comme maître, d'appeler les prévaricateurs pharisiens « race de vipères ». Secondement, que ceux qui disent des injures à leur prochain méritent l'enfer, car la Géhenna du feu était dans la vallée d'Hémon, où l'on brûlait autrefois des victimes à Molon, et cette Géhenna figure le feu d'enfer. Il dit ailleurs, « Si quelqu'un sert d'achoppement aux faibles qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui mît au cou une meule asinière et qu'on jeta dans la mer. Et si ta main te fait d'achoppement, coupe-la. Il est bon pour toi d'entrer manchot dans la vie plutôt que d'aller dans la Géhenna du feu inextinguible, où la vie ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et si ton pied te fait achoppement, coupe ton pied. Il est bon d'entrer boiteux dans la vie éternelle, plutôt que d'être jeté avec ses deux pieds dans la Géhenna inextinguible, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et si ton œil te fait achoppement, arrache ton œil. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec ses deux yeux dans la Géhenna du feu, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car chacun sera salé par le feu, et toute victime sera salée par le sel. Le sel est bon, que si le ciel s'affadit, avec quoi salerez-vous? Vous avez dans vous ce sel, conservez la paix parmi vous. » Il dit ailleurs, sur le chemin de Jérusalem, quand le père de famille sera entré et aura fermé la porte, vous resterez dehors et vous heurterez, disant, « Maître, ouvrez-nous !» Et en répondant, il vous dira, « Nescio vos ?»« Je ne vous connais pas. D'où êtes-vous ?» Et alors, vous commencerez à dire, « Nous avons mangé et bu avec toi, et tu as enseigné dans nos carrefours. » Et il vous répondra, « Nescio vos ? D'où êtes-vous ?» Vous voyez d'iniquité, et il y aura pleurs et grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes, et que vous serez chassés dehors. » Malgré les autres déclarations positives émanées du Sauveur du genre humain, qui assure la damnation éternelle de quiconque ne sera pas de notre Église, Origène et quelques autres n'ont pas cru à l'éternité des peines. Les Sociniens les rejettent, mais ils sont hors du giron. Les Luthériens et les Calvinistes, quoique égarés hors du giron, admettent un enfer sans fin. Dès que les hommes vécurent en société, ils durent s'apercevoir que plusieurs coupables échappaient à la sévérité des lois. Il punissait les crimes publics. Il fallut établir un frein pour les crimes secrets. La religion seule pouvait être ce frein. les Persans, les Chaldéens, les Égyptiens, les Grecs imaginèrent des punitions après la vie. Et de tous les peuples anciens que nous connaissons, les Juifs, comme nous l'avons déjà observé, furent les seuls qui n'admirent que les châtiments temporels. Il est difficile de croire ou de feindre de croire, sur quelques passages très obscurs, que l'enfer était admis par des anciennes lois des Juifs, par leur Lévitique, par leur Décalogue, quand l'auteur de ces lois ne dit pas un seul mot qui puisse avoir le moindre rapport avec les châtiments de la vie future. On serait en droit de dire au rédacteur du Pentateuque « Vous êtes un homme inconséquent et sans probité, comme sans raison, très indigne du nom de législateur que vous vous arrogez, quoi. Vous reconnaissez un dogme aussi réprimant, aussi nécessaire au peuple que celui de l'enfer et vous ne l'annoncez pas expressément. » Et tandis qu'il est admis chez toutes les nations qui vous environnent, vous vous contentez de laisser deviner ce dogme par quelques commentateurs qui viendront 4000 ans après vous et qui donneront la torture à quelques-uns de vos paroles pour y trouver ce que vous n'avez pas dit. Ou vous êtes un ignorant qui ne savait pas ce que cette créance était universelle en Égypte, en Chaldée, en Perse. Vous êtes un homme très mal avisé, si, étant instruit de ce dogme, vous n'en avez pas fait la base de votre religion. » Les auteurs des lois juives pourraient tout au plus répondre « Nous avouons que nous sommes excessivement ignorants, que nous avons appris à écrire fort tard, que notre peuple était une horde sauvage et barbare, qui, de notre aveu, erra près d'un demi-siècle dans des déserts impraticables. Qu'elle usurpa enfin un petit pays par les rapines les plus odieuses et par les cruautés les plus détestables dont jamais l'histoire ait fait mention. Nous n'avions aucun commerce avec les nations policées. Comment voulez-vous que nous puissions, nous les plus terrestres des hommes, inventer un système tout spirituel ? Nous nous servions du mot qui répond à « âme » que pour signifier « la vie ». Nous ne connûmes notre Dieu et ses ministres, ses anges, que comme des êtres corporels. La distinction de l'âme et du corps, l'idée d'une vie après la mort, ne peuvent être que le fruit d'une longue méditation et d'une philosophie très fine. Demandez aux Hottentots et aux Nègres, qui habitent un pays 100 fois plus étendu que le nôtre, s'ils connaissent la vie à venir. Nous avons cru faire assez de persuader à notre peuple que Dieu punissait les malfaiteurs jusqu'à la 4e génération, soit par la lèpre, soit par des morts subites, soit par la perte du peu de biens qu'on pouvait disposer. On répliquerait à cette apologie. Vous avez inventé un système dont le ridicule saute aux yeux, car le malfaiteur qui se portait bien et dont la famille prospérait, devait nécessairement se moquer de vous. » L'apologiste de la loi judaïque répondrait alors « Vous vous trompez, car pour un criminel qui raisonnait juste, il y en avait 100 qui ne raisonnaient point du tout. Celui qui, ayant commis un crime, ne se sentait puni ni dans son corps, ni dans celle de son fils, craignant pour son petit-fils, et de plus, il n'avait pas aujourd'hui quelque ulcère puant auquel nous étions très sujets. Il en éprouvait dans le cours de quelques années. Il y a toujours des malheurs dans une famille. Et nous faisions aisément à croire que ces malheurs étaient envoyés par une main divine, vengeresse des fautes secrètes. » Oh, il serait assez aisé de répliquer à cette réponse et de dire « Mais votre excuse ne vaut rien, car il arrive tous les jours que de très honnêtes gens perdent la santé et leurs biens. Il n'y a point de famille à laquelle il ne soit arrivé des malheurs. Si ces malheurs sont des châtiments de Dieu, toutes vos familles étaient donc des familles de fripons. » Le prêtre juif pourrait répliquer encore. Alors il dirait qu'il y a des malheurs attachés à la nature humaine et autres qui sont envoyés expressément de Dieu. Mais on ferait savoir à ce raisonnement combien il est ridicule de penser que la fièvre et la grêle sont tantôt une punition divine et tantôt un effet naturel. Enfin, les pharisiens, les asséniens, chez les juifs, admirent la créance d'un enfer à leur mode. Ce dogme avait déjà passé des Grecs aux Romains et fut adopté par les chrétiens. Plusieurs pères de l'Église ne crurent point la peine éternelle. Il leur paraissait absurde de brûler pendant toute l'éternité un pauvre homme pour avoir volé une chèvre. Virgile a beau dire dans son sixième chant de l'Énéide « Sedet aeternumque sedebit inferis Theseus, Thésée est assis et restera assis l'éternité aux enfers », il prétend en vain que Thésée est assis pour jamais sur une chaise et que cette posture est un supplice. D'autres croyaient que Thésée est un héros, qui n'est point assis en enfer et qui est dans les Champs-Élysées. Il n'y a pas longtemps qu'un théologien calviniste nommé Petit Pierre prêcha et écrivit que les damnés auraient un jour leur grâce. Les autres ministres lui dirent qu'il n'en voulait point. La dispute s'échauffa. On prétend que le roi, leur souverain, leur manda que, puisqu'il voulait être damné sans retour, il le trouvait très bon et qu'il y donnait les mains. Les damnés de l'église de Neuchâtel déposèrent le pauvre petit Pierre qui avait pris l'enfer pour le purgatoire. On écrit que l'un d'eux lui dit « Mon ami, je ne crois pas plus à l'enfer éternel que vous, mais sachez qu'il est bon, que votre servante, que votre tailleur et surtout votre procureur y croient. » J'ajouterai pour l'illustration de ce passage une petite exhortation aux philosophes qui nient tout à plat enfer dans leurs écrits. Je leur dirai, messieurs, nous ne passons pas notre vie avec Cicéron, Atticus, Cato, Marc Aurèle, Épictète, le chancelier de l'hôpital, la Motte Leveillé, des Yvetot, René Descartes, Newton, Locke, ni avec le respectueux Bell qui était si au-dessus de la fortune, ni avec le vertueux trop incrédule Spinoza, qui n'ayant rien rendit aux enfants du grand pensionnaire de Witte une pension de 300 florins, qui lui faisait le grand de Witte, dont les Hollandais mangèrent le cœur, quoiqu'il n'eût rien à gagner en le mangeant. Tous ceux à qui nous avons affaire ne sont pas des barreaux qui payaient à des plaideurs la valeur de leur procès qu'ils avaient oublié de leur apporter. Toutes les femmes ne sont pas des Ninons l'enclos qui gardaient les dépôts si religieusement, tandis que les plus graves personnages les volaient. En un mot, messieurs, tout le monde n'est pas philosophe. Nous avons affaire à force fripons qui ont peu réfléchi, à une foule de petites gens brutaux, ivrognes, voleurs. Prêchez-leur, si vous voulez, qu'il n'y a point d'enfer et que l'âme est mortelle. Pour moi, je leur crierai dans les oreilles qu'ils seront damnés s'ils me volent. J'imiterai ce curé de campagne qui, ayant fêté outrageusement volé par ses ouailles, leur dit son prône: je sais à quoi pensait Jésus-Christ de nourrir pour des canailles comme vous. C'est un excellent livre pour les sots que le pédagogue chrétien, composé par le révérend père d'Outerman de la Compagnie de Jésus et augmenté par révérend Coulon, curé de Villejuif, Paris. Nous avons, Dieu merci, 51 éditions de ce livre dans lesquelles il n'y a pas une page où l'on trouve une ombre de sens commun. Frère Outreman affirme qu'un ministre d'État, la reine Élisabeth, nommé le baron de Hosden, qui n'a jamais existé, prédit au secrétaire d'État Tchétchil et 6 autres conseillers d'État qui seraient damnés, et lui aussi. Ce qui arriva, et qui arrive à tout hérétique. Il est probable que Cécile et les autres conseillers n'en crurent point le baron d'Ozen. Mais si ce prétendu baron s'était adressé à 6 bourgeois, ils auraient pu le croire. Aujourd'hui, qu'aucun bourgeois de Londres ne croit à l'enfer, comment faut-il s'y prendre? Quels freins aurons-nous? Celui de l'honneur, celui des lois, celui même de la divinité, qui veut sans doute que l'on soit juste, soit qu'il y ait un enfer, soit qu'il n'y en ait point.